sujet de discussion.
Imaginez un instant, vous êtes une jeune femme de 25 ans. Chaque matin, vous vous réveillez avec l'espoir que ce sera différent. Vous vous regardez dans le miroir, observant des poils qui ont poussé sur votre menton pendant la nuit. Vous touchez votre ventre, gonflé sans raison apparente. Et vous pensez à votre cycle menstruel, absent depuis des mois. Et à ce désir d'enfant qui semble s'éloigner chaque jour un peu plus. Ce n'est pas un cauchemar, c'est la réalité quotidienne de millions de femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK. Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue à cette émission. Et nous allons aujourd'hui vous conduire dans l'univers méconnu du SOPK. Et avec nous pour en parler, des voix qui brisent le silence, l'ONG solidaire contre le SOPK qui se bat chaque jour pour faire connaître cette condition représentée ici par la présidente Bamouni Prisca Vanessa. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Radio de la Paix.
Merci beaucoup.
Alors on a de l'espoir et aussi la force, n'est-ce pas?
Oui.
Pour lutter contre cette maladie.
Exactement.
Et voilà, nous sommes aussi avec un médecin naturopathe qui nous guidera vers des solutions naturelles, bien évidemment. Docteur Aoussou Moïse, bonjour.
Bonjour.
Bonne arrivée, docteur.
Merci beaucoup.
Ça va bien?
Ça va très bien, oui.
Super. Et surtout, on aura aussi des témoignages poignants, de femmes qui vivent avec le SOPK, et on entendra leurs histoires réelles, et ce qui nous aidera à mieux connaître ce syndrome. Ouais. Alors voilà, donc installez-vous bien, chers auditeurs et auditrices, pour suivre ce numéro de sujet de discussion sur ce syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK. Et nous commençons avec l'ONG solidaire contre le SOPK. Alors, avec vous, Vanessa, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que c'est de votre conception? C'est vrai qu'on aura une définition du docteur. Et pourquoi il est important d'en parler?
Déjà, je me présente.
Ah, allez-y.
Je suis mademoiselle Bamouni Vanessa Prisca. Mmh. Je suis commerciale de formation et également à la tête de l'ONG solidaire contre le SOPK, qui est un dérèglement hormonal qui est vraiment chronique et qui est également l'une des premières causes de l'infertilité féminine. Le SOPK touche entre 7 et 13% des femmes et on remarque que 70% des cas ne sont pas diagnostiqués. Voilà. Mmh. Il est important d'en parler parce que cela suscite beaucoup de difficultés, déjà parce que la vie en elle-même de celles qui sont touchées par la pathologie est, je vais dire, difficile. Voilà. Aujourd'hui, on a décidé d'en parler de plus en plus pour permettre à celles qui se sentent, je vais dire, extraterrestres, comme des extraterrestres, parce que c'est également une pathologie très solitaire. Donc, quand on a ces symptômes-là ou quand on a la pathologie, même diagnostiquée, on se sent très seul et on ne sait pas véritablement vers qui se tourner, déjà pour le diagnostic, et deuxièmement, comment vivre avec la pathologie.
Mmh, c'est
ça. Et surtout, la bonne information. Mmh. Voilà.
Voilà. On va voir à présent l'approche scientifique un tout petit peu avec docteur Aoussou Moïse qui est avec nous. Vous êtes naturopathe. Alors déjà, quel est le lien entre votre spécialité et cette pathologie? Alors, et puis vous allez aussi nous définir scientifiquement ce que c'est.
Déjà, la naturopathie a plus une approche, on va dire, holistique, donc naturelle de différentes pathologies, pas que du domaine de la fertilité, mais dans la plupart de tous les cas, donc style de vie, éventuellement les maladies qui touchent certains organes, etc. Maintenant, dans mon sens, parce que nous sommes deux, bon, on va dire que nous sommes trois dans notre cabinet à le faire, on s'est plus penché sur la question de la fertilité. parce qu'on a remarqué que c'est un volet qui touche, on va dire, beaucoup de femmes, du moins toutes les femmes, le fait de vouloir avoir un enfant ou bien de sentir sa condition gynécologique changer. Donc on s'est plus penché sur cette question pour se spécialiser, pour pouvoir toucher donc le maximum de personnes. Donc, qui veulent éventuellement changer leurs circonstances, le style de vie éventuellement, et pourquoi pas avoir un bébé. Donc, maintenant, pour ce qui concerne le SOPK, déjà, syndrome des ovaires polykystiques, il faut savoir qu'à la base, ce n'est pas une maladie.
Oui.
C'est un syndrome. Et un syndrome, il y a plusieurs symptômes qu'on ressent. Donc, syndrome des ovaires polykystiques, naturellement, on va avoir des ovaires qui vont commencer à s'enfler, parce que d'autres, quand ils entendent polykystique, ils pensent que il y a plusieurs kystes sur l'ovaire, du coup ça devient énorme. Donc les polykystiques, c'est par rapport surtout aux follicules qui sont produits en quantité, donc au niveau des ovaires, qui vont faire que on n'aura pas d'ovulation, par exemple. Donc on va avoir des femmes qui ne pourront pas ovuler correctement, qui vont avoir des douleurs au niveau du cycle menstruel, qui vont avoir des problèmes donc d'hyperandrogénie, des troubles au niveau de la fertilité et au niveau du cycle, donc etc. Donc plusieurs syndromes qu'elles vont ressentir en même temps, qui vont agir sur leur quotidien, de sorte à créer une certaine, on va dire, infertilité. Donc l'infertilité, c'est un point du syndrome. Voilà, donc ce syndrome-là fait en sorte que la femme se retrouve dans une condition qu'elle ne connaît pas. Ça, c'est un. Et de deux, elle ne sait pas vraiment vers qui se tourner, parce que le gynécologue, ne maîtrisant pas le problème des SOPK, parce que c'est une maladie qui est encore récente et qui est encore en phase de développement. On est encore en train de faire des recherches dessus. Mmh. C'est pas encore très connu. Du coup, il faudrait faire encore plus de formations pour savoir exactement de quoi ça parle et comment traiter.
Donc jusqu'à présent, on n'a pas une idée claire de l'origine.
On ne peut pas dire qu'on connaît l'origine. On sait que ce sont des syndromes et ça affecte le volet hormonal de la femme, parce que si on a touché le volet hormonal, on touche à tout chez la femme. Donc c'est son volet hormonal qui fait, mais qui définit une femme. Donc si le volet hormonal est touché, tout est mélangé. Voilà, donc on ne peut pas mettre pour l'instant de cause spécifique, mais une fois que les syndromes là arrivent à être gérés, je pense que naturellement on peut avoir un bon résultat.
De façon simple et claire, pour nos auditeurs et auditrices, alors comment on reconnaît par exemple qu'on souffre justement de ce syndrome là?
Alors pour reconnaître, c'est pas très compliqué.
Des exemples très clairs.
C'est pas très compliqué. Déjà, il faut avoir au moins 2 symptômes sur 3 de ce que j'ai cité. Donc on se retrouve dans une circonstance où on a une forte pilosité, donc qu'on appelle de l'hirsutisme.
C'est-à-dire
avec des poils qui vont pousser sur le menton ou bien au niveau de la poitrine chez la femme. On se retrouve avec des perturbations endocriniennes, donc pour certaines femmes. On se retrouve à avoir des règles qui sont atroces, donc avec des difficultés même à se lever, souvent invalidantes. On se retrouve avec des cycles qui sont un peu trop longs ou un peu trop courts ou pas de cycle du tout.
Des cycles menstruels irréguliers.
Très irréguliers. Donc pour certaines, le cycle il sera très long, il pourra durer des jours et des jours. Donc elle pourra avoir des jours d'écoulement ou tout court, elle aura le cycle qui va s'allonger avant de revenir. Pour d'autres, elles n'auront pas de cycle pendant des mois. Donc, et puis ensuite, lorsqu'elles vont consulter, elles vont constater qu'il y a un problème au niveau des ovaires. Donc des douleurs au niveau des côtés, donc douleurs invalidantes. Donc il y a encore d'autres symptômes, mais juste par rapport à cela, si on se concentre sur ça, si on sent au moins 2 symptômes à l'intérieur, il faut consulter déjà. Pour savoir ce qu'on a.
De consulter très rapidement.
Faut consulter très rapidement.
Et est-ce que vous recevez de plus en plus de femmes qui se plaignent ou qui chez qui on constate ces symptômes que vous avez que vous venez d'expliquer?
Alors si je dois aller sur des statistiques personnelles des femmes qu'on peut recevoir, sur 10 femmes qui viennent en consultation, on peut avoir 4 ou 5 qui sont atteintes de SOPK. Donc oui, il y a de plus en plus de femmes qui ne connaissent pas leurs conditions, parce que c'est au cours des consultations qu'elles savent exactement ce qu'elles ont. Il est très important de pouvoir consulter. Même lorsqu'on sent des troubles gynécologiques, il est important de consulter, parce qu'on ne sait pas ce que ce trouble gynécologique peut cacher.
Vous êtes médecin et à côté, on a aussi la société civile, des ONG qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de sensibiliser, d'être aux côtés de ces femmes-là, l'ONG solidaire contre le SOPK, qui est représentée ici par Bamouni Priska Vanessa. Alors, vous, qu'est-ce qui vous pousse à militer au sein de cette ONG et comment l'ONG voit le jour, hein? Comment elle se crée? Qu'est-ce qui vous motive justement?
Ce qui me motive, on va dire que c'est mon histoire, voilà, parce que j'ai également eu des difficultés en développant ces symptômes que le médecin a énumérés. Du coup, moi, je pensais être enceinte, hein, parce que je ne voyais pas mon cycle et c'était pratiquement un peu récurrent. Et il y a une fois où j'étais vraiment dans le doute en me disant que je pensais que j'étais enceinte parce que je faisais également les signes d'une femme enceinte. Donc je fais un test de grossesse qui est confirmé, qui montre que c'est positif. Du coup, je vais à l'hôpital pour essayer d'en savoir plus. Il faut dire qu'avant ça, je faisais déjà des allers-retours chez les médecins pour savoir ce que j'avais parce que moi, je suis très curieuse. Voilà, donc quand je sens que j'ai pas un cycle menstruel régulier, que j'ai des douleurs pelviennes, que je suis en surpoids, la seule en surpoids de sa famille déjà, et que parfois j'ai des poils qui peuvent sortir sur mon menton et tout. Et surtout même ce qui posait la difficulté pour moi, c'était les douleurs pelviennes. Donc je peux être là et puis j'ai ces douleurs-là qui vont apparaître, qu'ils ont appelé la dystrophie ovarienne. Voilà. Et au fur et à mesure, puisque c'est quelque chose qui ne part pas, tu vas ressentir les douleurs, ils vont te donner des cachets. Tu vas faire un bon moment sans avoir ces douleurs-là, mais sauf que ça va revenir. Voilà. Donc j'y allais fréquemment, on va dire, pour chercher à savoir ce que j'avais. Et lorsque ce moment-là arrivait, pensant que j'étais enceinte, je suis allée à l'hôpital. Et le médecin, après son toucher, il a confirmé, oui madame, c'est pour que vous soyez vraiment enceinte, tout ça. Mais pour confirmer, allez-y faire une échographie. Je pars, je fais l'échographie encore. Et ce n'est pas une grossesse. C'est juste qu'il y a encore les ovaires qui sont enflés. Je dis, ben là, il faut que je fasse quelque chose parce que n'ayant aucune information, comme on a l'habitude de le faire nous-mêmes en tant que femmes, quand on arrive à l'hôpital, on ne pose pas vraiment de questions aux différents médecins. On me parle de la dystrophie ovarienne. Lorsque je pose la question au médecin, tout ce qu'il me dit, en fait, on ne me donne pas de réponse. Donc, je ne sais pas ce que j'ai de un. Deuxièmement, je souffre de quelque chose. On me dit, bon, on ne te donne que des médicaments, tu les prends. Que ça ne passe pas, tu dois prendre les médicaments sans forcément poser de questions. Ça également, c'est l'un de nos combats. C'est ce qu'on essaie vraiment de pousser les dames à poser des questions lorsqu'elles vont voir les médecins. Voilà. Et c'est en ce moment-là que je décide d'aller voir un autre médecin qui va, après des analyses, parce qu'il faut dire que le diagnostic du SOPK ne se pose pas tout d'un coup. Voilà, il faut vraiment avoir un processus d'élimination de tout ce qui peut éventuellement être causé par ce qu'on a. Il faut vraiment éliminer avant de donner le diagnostic et tout. Le médecin est fini, il me parle du SOPK en me disant que voilà, si vous êtes en relation sérieuse, va maintenant songer à essayer d'avoir des enfants parce que vous avez le SOPK qui est l'une des premières causes de l'infertilité de la femme. Et vous avez moins de chances d'avoir un enfant naturellement comme une femme normale. Ah ben franchement, je vous dis que tout ce que le médecin a dit là, après je n'ai rien entendu, hein, parce que mon esprit s'est envolé. Parce que je suis une femme, j'espère avoir des enfants. Et on te dit que tu n'auras pas, tu souffres d'infertilité et tout. Sauf que dans cette période-là, tu n'es pas forcément dans le désir d'avoir un enfant. Et c'est ce qui, aujourd'hui, touche la plupart des femmes atteintes du SOPK. On te dit qu'avoir un enfant, c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses commencer à essayer d'avoir des enfants. Si tu es une jeune fille et que tu n'as pas tout de suite envie d'avoir des enfants, qu'est-ce que tu fais quand tu sors de là? Moi, quand je suis sortie de là, j'ai essayé d'appeler les personnes qui sont proches de moi. Et là, je tombe des nues parce que lorsque le médecin même il me parle de la pathologie, moi je connais pas, j'en avais jamais entendu parler de toute ma vie. Et j'appelle celles qui sont plus proches de moi, j'en parle et en fait je me sens comme un extraterrestre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a personne qui sait de quoi il s'agit. On parle d'hormones, mais on te dit va voir la tante qui fait les médicaments au marché. C'est pour essayer de traiter un seul volet qui est le volet de la fertilité. Mais en vrai, le SOPK, c'est bien au-delà de la fertilité. Le SOPK, c'est un style de vie. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Une jeune femme ne va pas tout de suite penser à sa fertilité. Elle va tout de suite penser à comment je vis avec le SOPK, avec l'information qu'on vient de me donner. Donc, c'était ça ma difficulté. Au sorti de cela, je dis, mais je pense qu'il y a quelqu'un aussi, quelque part, qui doit vivre les mêmes difficultés que moi. Parce que je ne me sens pas comprise. Je me sens seule dans cette histoire. Comme ça naît la page Facebook, voilà. Et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui posent des questions, qui veulent avoir l'information, qui soit sont diagnostiquées ou soit veulent être diagnostiquées parce qu'elles présentent quelques symptômes de ce qu'on vient de donner.
Donc votre première démarche, c'est l'ouverture, la création d'une page Facebook.
Exactement. Okay. Et là, je vois que ça commence, les dames, elles demandent. Et on a essayer de mettre en place des activités, des moments de sensibilisation, plus sur le digital certes, mais on essaie quand même de poser des actions sur le terrain pour donner les informations, parce que déjà ce sont les informations qui sont importantes.
C'est ça, c'est vraiment important, et on en saura un peu plus, hein, sur les activités phares que vous menez sur le terrain. Mais nous avons des témoignages, je crois, au téléphone. Voilà, allô.
Oui, allô.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Comment vous allez ce matin?
Je vais bien, merci.
Alors, vous avez aussi une histoire avec ce syndrome que vous voudrez bien partager justement à nos auditeurs et auditrices. Et on va garder l'anonymat, hein. Justement, est-ce que d'accord. Vous pouvez nous partager votre expérience personnelle avec le SOPK?
D'accord. Donc, moi, mon parcours avec le SOPK, ça, il a commencé depuis l'adolescence. Depuis l'apparition des premiers menstrues, au début, en tant qu'adolescent, bon, quand les menstrues ne viennent pas tous les mois, youpi, on ne comprend pas, on ne percute pas, jusqu'à ce que j'ai 18 ans, j'ai un mal de ventre, je vais avec ma grande sœur voir un médecin, on me fait une écho, on me dit « Ah, vous avez une dystrophie ». C'est la première fois déjà d'entendre parler de la dystrophie ovarienne. On me met sous un traitement, sous pilule. Donc, voici le parcours qui commence avec les pilules. Donc, prise de poids, acné, tu te sens mal dans ta peau. Dès que tu arrêtes les pilules, automatiquement, tu as des troubles du cycle. Tes menstrues ne viennent pas. Les menstrues peuvent faire 6 mois, 7 mois sans venir. Tu ne comprends pas. Quand tu essaies d'expliquer, on va te conduire vers... on va te demander de prendre des traitements traditionnels. Bon, quand tu fais, tu as des saignements, mais hémorragiques, ça veut dire que tu saignes vraiment abondamment, avec des gros caillots. Donc, du coup, tu es perdu. Tu fais le tour des médecins, mais on n'arrive pas vraiment à te dire ce que tu as. Et je vous assure que moi, j'ai fait pratiquement 17 ans avant de pouvoir mettre un nom sur la pathologie. À chaque fois que je voyais les médecins, on me disait non, ça c'est une dystrophie ovarienne, donc prendre tel médicament, ça va passer. Prendre telle hormone, ça va passer, mais zéro. Et comme la dame l'a dit tout à l'heure, franchement, c'était un peu comme un extraterrestre, parce que tu es la seule dans ton entourage à vivre ce calvaire. Et les gens ne comprennent pas, en fait, ce mal-être. Et quand tu prends de l'âge, arrivé un moment, tu penses maintenant à ta fertilité, à faire des enfants, mais bon, c'est bizarre, tu n'as pas tes menstrues, tu as des bobos. Et moi personnellement, j'ai fait une complication, j'ai développé de l'hypertension artérielle. Donc, voilà un peu, je peux dire que maintenant, ça va mieux. Puisque je sais ce dont je souffre, je sais que c'est un style de vie, je sais comment je dois marcher et tout. Donc, tout doucement, on essaie de gérer les symptômes. Et puis, voilà, avec l'association, on sait que, ben, on n'est plus seul.
C'est ça. Justement, ça c'est vraiment important, hein, le fait de savoir ou de se sentir vraiment considéré dans la société autour avec des soutiens et tout ça qui viennent de la part des ONG, des amis. Mais il va falloir aussi insister sur la communication et la sensibilisation autour de ce syndrome véritablement. On reviendra. Merci beaucoup, madame, pour ce témoignage.
Je vous en prie.
Voilà, on aura un autre appel. Je crois que la personne est déjà en ligne. Ouais, je crois qu'on va enchaîner, hein, avec vous. Alors, vous êtes là. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Comment ça va?
Ça va, et chez vous?
Ça va, super bien. Merci d'être sur Radio de la Paix. Et puis merci aussi d'avoir accepté de nous partager votre expérience avec cette anomalie. Et quels ont été les plus grands défis dans votre parcours avec le SOPK?
Pour moi, j'ai été diagnostiquée depuis 2017. Et le plus grand défi, c'est l'incompréhension.
L'incompréhension.
L'incompréhension et le manque, je vais dire, de fertilité. C'est-à-dire ne pas faire des enfants. Mmh. C'est le plus gros challenge que nous avons, en fait. Parce que, d'abord, on ne savait même pas ce qu'on avait. On a trimé d'hôpitaux en hôpitaux. Ouais. Afin qu'on puisse savoir ce qu'on a. Et quand tu sais ce que tu as et que tu sais que ce n'est pas guérissable, on ne peut pas en guérir, d'abord, c'est un choc émotionnel. Et en plus de ça, tu n'arrives pas encore à faire des enfants. C'est difficile. C'est compliqué. C'est nos plus gros challenges, ça.
Oui. Et vous vivez à Abidjan?
Oui, je vis à Abidjan.
Mmh. Et c'est vrai, ce sont des difficultés. Comment vous arrivez à les surmonter au jour le jour?
Comme toutes nos, je veux dire, toutes les femmes qui sont diagnostiquées, c'est le style de vie.
Mmh.
Parce qu'on a un certain style de vie qui est différent de, je veux dire, de tout le monde, de toutes les autres femmes. C'est de changer son alimentation, de changer son style de vie. De faire l'effort de vivre avec la pathologie et puis voilà.
Merci. Merci beaucoup. Merci bien pour ce témoignage également. Alors, nous allons retrouver docteur Aoussou Moïse. Mm-hmm. On a écouté ces dames qui vraiment ont besoin de parler, de s'exprimer. Des éléments qui ressortent, déjà la compréhension ou la perception même de ce mal. Elle parle aussi de dystrophie ovarienne. Mm-hmm. C'est difficile à comprendre, hein, pour une dame qui, après un diagnostic, comprend qu'elle justement vit cette situation. C'est quoi exactement? Et puis les traitements traditionnels, puisque généralement elles sont orientées vers la médecine traditionnelle, est-ce que la médecine traditionnelle peut aussi apporter des éléments de réponse face à ce mal là? Et vous, à votre niveau en tant que naturopathe, quelles sont justement les solutions, hein, face à ces difficultés que les femmes vivent?
Alors, il y a beaucoup de points quand même qui ont été touchés.
C'est cela.
Déjà, le côté dystrophie ovarienne, pour pouvoir savoir s'il y a une dystrophie ou pas, parce que la dystrophie peut être un des syndromes qu'on ressent lorsqu'on a un SOPK.
Mm-hmm.
Donc, on peut être dystrophique, donc on peut avoir des ovaires dystrophiques. Ça ne veut pas dire qu'on a un SOPK.
Mm-hmm.
Parce que vous voyez, donc, le symptôme va changer d'une femme à une autre, tout comme une autre va développer une résistance à l'insuline, un diabète, éventuellement une autre... une hypertension artérielle. Donc, les syndromes changent d'une personne à une autre.
Mmh.
Voilà pourquoi c'est une maladie où il faut consulter plusieurs spécialistes en même temps.
Ouais.
Ce que vous voyez. Donc, lorsqu'on a un SOPK, on ne s'attaque pas directement au gynécologue. Ça, c'est le volet vraiment où on veut s'occuper de notre fertilité. Mais il y a plus de défis dans le SOPK. Il y a le défi, par exemple, par rapport au style de vie, parce qu'on va prendre un peu trop de poids. Donc, comment réguler ce poids qui n'arrive pas à descendre? Même quand on mange petit, c'est comme si on mange une tonne, alors que la demoiselle qui fait 65 ou 70 kilos mange comme un chameau, mais on ne sent pas. Parce que vous voyez. Donc, il y a déjà ce défi-là de savoir exactement quel est le symptôme qu'on est en train de faire évoluer ou bien qu'on est en train de développer avec le temps. Et en fonction de ça, on pourra orienter en fonction des spécialistes.
Oui.
Donc, une personne qui va développer une résistance à l'insuline, dans son traitement pour le SOPK, on va ajouter aussi le diabétologue. Pour une autre, on va ajouter le radiologue. On peut ajouter ensuite un mode de vie sain parce que effectivement, comme l'autre dame a dit, c'est surtout un déséquilibre, que ce soit au niveau de l'alimentation ou bien au niveau du style de vie. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'une femme qui a un SOPK, elle doit avoir le même mode de vie que toutes les autres? Non. Déjà, par rapport à son problème avec l'insuline, mm-hmm. il est important déjà de diminuer le niveau de sucre qu'on consomme. Donc, les pâtisseries, les croissants, etc., on les met vraiment sur le côté lorsqu'on a un SOPK. Et moi, j'ai l'habitude de le dire. Une femme qui a un SOPK, parce que le SOPK, c'est une maladie pour des personnes qui sont responsables. Responsables de vouloir changer le style de vie. Donc, est-ce que je vais faire du sport? Oui, je vais faire du sport. Est-ce que je dois faire du sport? Oui, je dois faire du sport.
Ça s'impose.
Oui, ça s'impose. Pour éviter donc de pouvoir développer la pathologie. Si je fais le sport, j'arrive à réguler déjà au niveau du stress, de l'anxiété, au niveau des crises de dépression, parce que pour d'autres, elles sont dépressives. Est-ce que j'arrive à gérer ça avec le sport? Oui, parce que j'ai une activité qui me permet de libérer au maximum des hormones. Donc, dopamine, anxiété, tout ça, ça va descendre, ça va se régulariser. Au niveau des femmes qui vont développer une dystrophie ovarienne, la dystrophie pourra être réglée avec un traitement clinique. Mm-hmm. Le SOPK a la différence, donc, le SOPK a la différence. Si elle a des ovaires polykystiques, même après un traitement, elle va avoir ce qu'on appelle un effet yo-yo. Donc, elle va traiter aujourd'hui, demain, ça va revenir, jusqu'à ce qu'elle sache exactement ce qu'elle a. Voilà pourquoi c'est une maladie pluridisciplinaire. Un gynécologue ne peut pas traiter un SOPK. Il faut ajouter l'endocrinologue, il faut ajouter le cardiologue, il faut ajouter le naturopathe, il faut ajouter le nutritionniste, il faut ajouter le diabéto, etc. Donc on ajoute toutes ces spécialités-là afin de pouvoir avoir un bon protocole de soins par rapport à SOPK. Donc la prise en charge
J'allais justement, effectivement, voilà. On va aborder ce point-là. Mm-hmm. Le temps d'écouter aussi un dernier témoignage d'une autre dame qui a bien voulu accepter de nous partager ce qu'elle vit. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Oui, alors on va garder l'anonymat. Et avec vous, quels sont les conseils, puisqu'on a déjà eu des cas hein, de certaines personnes, certaines femmes qui vivent justement cette anomalie. Mais avec vous, mm-hmm. quels sont les conseils que vous donneriez aux femmes qui viennent d'être diagnostiquées, en prenant peut-être le cas de votre expérience?
D'accord. Tout d'abord, bonjour à tous. Mm-hmm. Comme conseil, je pourrais donner à ces femmes qui viennent d'être diagnostiquées de ne pas rester isolées. Parce que c'est en se frottant à d'autres personnes qu'on acquiert l'expérience de la vie avec le SOPK. Je m'explique. En partant vers d'autres personnes, c'est pour vous conseiller d'aller voir un nutritionniste, d'aller voir un psychologue au cas où vous êtes déjà en phase de dépression parce qu'effectivement, souffrir du SOPK conduit souvent à la dépression. Ça, on n'en parle pas souvent, mais ça arrive. Ça conduit à la dépression. Et ne pas rester isolé, ça permet aussi à ces femmes-là de ne pas se sentir seules. C'est vraiment sur ça que je mettrai l'accent. Il y a aussi le fait de faire attention à sa nourriture. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qui est autorisé quand on souffre du SOPK? Qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Parce que, de ce que j'ai découvert, souffrir du SOPK peut conduire au diabète de type 2. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment faire attention à tout. Donc, pour résumer, il faut être courageuse dans ce sens d'aller vers les autres, en parler, et puis accepter qu'on est différente des autres.
C'est ça. Et être vraiment courageuse hein, et faire preuve de résilience. Et surtout, vous avez aussi évoqué ce cas-là de la prise en charge psychologique. Hein. Donc, il y a un suivi psychologique très important. Alors, on va aborder justement, vous voyez, avec vous, Vanessa. Oui, vous voulez réagir justement?
En effet, en ce qui concerne la prise en charge psychologique, parce qu'au sein de l'ONG, on essaie vraiment de pouvoir aller de l'accompagnement, c'est-à-dire de celles qui sont diagnostiquées, soit avant le diagnostic même, on essaie vraiment de les accompagner, de les orienter, parce que pour la majorité de celles qui ont parlé, vous êtes rendu compte qu'il y a vraiment une errance médicale. Mmh. Donc de les orienter en ce qui concerne le diagnostic ou encore la prise en charge. et également ce qui concerne la prise en charge holistique, comme je le disais, holistique qui peut renfermer les naturopathes et également les psychologues. Mmh. Voilà. On essaie vraiment de pouvoir aider dans ces différents volets-là en mettant en place des activités. Donc, plusieurs activités. On a également pour leur permettre d'avoir des psychologues. Donc, celles qui ont besoin vraiment de parler, parce que la dépression également est l'un des symptômes du SOPK, la dépression, l'anxiété, le stress. On a des groupes de parole qu'on a mis sur pied pour permettre à ces dames-là de pouvoir se libérer. Donc, qui se tiennent chaque premier vendredi des mois. Et également des contacts des psychologues qu'elles peuvent contacter pour discuter de ce qu'elles ont. Voilà, donc aujourd'hui, on peut dire que nous sommes en partenariat avec des équipes de psychologues.
Ah oui, vraiment important cet aspect, docteur Aoussou Moïse, et la prise en charge de façon générale, ça ne doit pas être aussi facile. Surtout que là, hein, vous expliquez que c'est une maladie qui touche vraiment, qui a besoin de l'assistance de plusieurs spécialités. Alors, pour une femme qui traverse des difficultés financières, bien sûr, et on le sait aujourd'hui, avec le coût de la vie élevé, ce n'est pas si évident.
Effectivement.
Et qu'est-ce qui est mis en œuvre justement dans ce sens-là, et comment ces femmes-là qui souffrent du SOPK peuvent bénéficier de prise en charge?
Alors, déjà...
Est-ce que ça existe déjà des circuits justement?
Des circuits de prise en charge, c'est difficile à dire.
Oui.
Ça, c'est difficile à dire. Cependant, est-ce qu'on peut réussir à gérer ces symptômes-là de manière personnelle, parce que c'est une maladie, comme j'ai dit, de personne responsable. Il y a des spécialistes qui vont vous donner des conseils par rapport à votre mode de vie. Et j'ai suivi des dames qui n'avaient pas d'argent, mais juste avec le style de vie qu'elles ont changé, ont réussi à régler leur cycle, à régler la plupart des symptômes qu'elles suivaient, en gérant ce qu'elles consommaient, en faisant du sport, de bonnes habitudes, arriver à s'hydrater correctement, et aujourd'hui qui ont pu faire même des bébés, sans avoir à dépenser un seul centime. Mmh. Donc c'est une maladie de personne responsable.
Mmh.
La véritable difficulté, c'est est-ce que la personne est prête à pouvoir s'engager elle-même dans son processus? Il est plus facile pour certaines femmes de prendre des médicaments que de changer leurs habitudes quotidiennes. Vous direz à une femme, dormez plus tôt, faites des exercices, elle va vous demander, mais j'ai besoin d'antidépresseurs, je fais comment? Vous voyez? Donc, le mode de vie est l'aspect le plus important lorsqu'on a un SOPK. Mmh. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, il faut que la personne fasse du sport. Il faut qu'elle change ses habitudes alimentaires. Et pour ça, il y a des nutritionnistes, il y a des diététiciens qui vous aident à corriger ça. Il y en a même qui sont en ligne, il y a des conseils, tout ça, qui sont maintenant plus accessibles. Parce que c'est une maladie qu'on est en train de découvrir. Donc, il y a de plus en plus d'informations, pas encore totalement filtrées, mais des informations qui sont là et qui sont avérées, qui permettent effectivement de pouvoir réguler cette pathologie-là. Donc, une fois qu'on a le bon circuit, tout comme par exemple l'ONG qui va vous aider dans le soutien, tout ça, mais qui a aussi des médecins en son sein, donc qui peut vous orienter pour éviter l'errance médicale. Il vous donne les meilleurs conseils, vous suivez les conseils. Je pense qu'avec ça déjà, on peut avoir de bons résultats.
C'est cela, oui. Et vous êtes déjà lancé dans cette dynamique, n'est-ce pas?
Exactement. Je pense que quand le docteur a parlé de d'en ligne,
oui,
je voulais rebondir là-dessus pour dire que, en effet, aujourd'hui, l'ONG a pu être en partenariat également avec une start-up qui permet à ces dames-là de pouvoir discuter avec des médecins en ligne. Donc, on peut faire de la téléconsultation aujourd'hui sans même se déplacer, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des dames de plusieurs autres pays qui nous contactent, qui veulent pouvoir avoir des informations sur le SOPK ou savoir vraiment après, par exemple, plusieurs échographies qu'elles ont eu à faire, pouvoir avoir vraiment de vraies informations sur ce qu'elles ont. En cela, on a pu avoir ce que moi j'appelle aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire avec un partenaire, je ne sais pas si je peux citer, voilà, qui nous permet de les accompagner. Voilà, parce que comme je le disais, le SOPK, c'est une pathologie solitaire. On ne sait pas où se tourner, on ne sait pas qui voir, on ne sait pas à qui parler. Donc, avec la téléconsultation, elles pourront en effet avoir des informations justes déjà et discuter avec des professionnels, des gynécologues qui sont vraiment certifiés au sein de l'ONG.
Mmh. Voilà. Et quelle approche, surtout pour les femmes en zone rurale ? Est-ce que déjà vous avez un plan d'action vers d'autres localités au-delà d'Abidjan, puisque vous êtes implanté ici à Abidjan,
oui.
Mais ça doit être aussi une action plus globale et tout cela qui va s'étendre. Oui. Qu'est-ce qui est prévu en ce sens ?
Ce qui est prévu, c'est que nous espérons. Nous avons une activité bientôt à quelques kilomètres de Boaké, qu'on va mettre également sur pied dans le but de sensibiliser. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est centré sur Abidjan, mais dans quelques temps, on va arriver dans d'autres zones comme Yamoussoukro, Boaké.
Et dans ces zones-là, pas particulièrement, comment les femmes qui vivent ce syndrome ou cette perturbation hormonale peuvent justement se faire confiance dans un univers où il y a beaucoup de stéréotypes? Vous savez, en zone rurale, généralement, il y a une méconnaissance surtout de ces genres de choses. Et est-ce que il y a déjà comment cela peut se faire justement ?
Je pense que la première délivrance, comme il y a eu la dame qui l'a dit tout à l'heure, la première délivrance, c'est de savoir ce qu'on a. Lorsque tu sais ce que tu as, je vous assure que c'est la magie. Moi, ça a marché pour moi parce que après tout ça, je voulais vraiment savoir ce que j'avais. Et quand j'ai eu mon diagnostic, je me suis dit, ah, enfin, je ne suis pas folle. Au moins, je sais que j'ai quelque chose. Et je vous assure que moi, j'ai déjà eu des dames au téléphone qui ont pleuré du simple fait qu'elles ont su qu'il y a quelqu'un qui comprenait ce qu'elles vivaient. Donc, je sais que avec le fait de se sentir comprise, de se sentir, de savoir ce qu'elles ont, c'est déjà un soulagement. Elles auront parfois la force de dire à telle personne, je suis comme ça parce que j'ai ça.
C'est ça. Voilà. Alors, docteur Aoussou, alors, justement, nous sommes presque à la fin de ce temps d'échange. Est-ce qu'il y a des éléments importants, des éléments de langage, des messages clés, par exemple, qui pourraient être adressés à toutes ces femmes, à toutes ces personnes qui nous écoutent, et surtout, comment cela aussi peut être vécu dans un couple pour l'un des conjoints ou l'un de la conjointe qui est vraiment touchée par ce mal?
Alors, c'est une question très importante. Déjà, il faut le dire à la personne qui souffre, à cette dame qui souffre d'un SOPK, il faut le savoir, ce n'est pas de ta faute. On est avec un SOPK, on n'a pas demandé. Donc, la véritable difficulté, c'est par rapport aux stéréotypes, par rapport à la pression de la famille qui vous dit, depuis longtemps, tu es avec notre fils, tu n'as pas encore donné de bébé, tout ça. Il faut le savoir, ça ne dépend pas de la femme. Si elle avait demandé, elle aurait déjà des enfants. Donc, il est important d'avoir un soutien psychologique d'abord de son partenaire.
Oui.
On ne se met pas en couple seulement pour faire des enfants. Et quand on dit c'est envers et contre tout, jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est avec tout ça, dans la difficulté, dans la maladie, et c'est tout ça, même les vœux des couples ou lorsqu'on veut se marier. On ne se met pas que pour les enfants, mais la première force qui va permettre à cette femme de pouvoir combattre sa maladie jusqu'à remporter et avoir la victoire, c'est le soutien psychologique que son époux, son conjoint, son mari va pouvoir lui apporter. Ce n'est pas la faute de la femme si elle a un SOPK. Et c'est un syndrome, il peut se régler. Donc, il n'est pas dit qu'elle sera infertile à vie. Il est dit qu'elle a des difficultés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques. Il y a beaucoup de techniques qui ont été développées par rapport à l'assistance, à la procréation, tout ça, qui permettent au couple de pouvoir avoir facilement des enfants, même en souffrant de SOPK. Donc, ce n'est pas une fatalité. C'est possible de régler avec un bon suivi, et pour les cas qui sont difficiles, avec une assistance médicale à la procréation, d'avoir un bébé, si c'est l'objectif, ou de réguler les autres symptômes, que ce n'est pas seulement la fertilité, mais il y a aussi le style de vie par rapport à l'hypertension artérielle, par rapport au diabète. Donc tout ça, c'est réglable, mais il faut surtout le soutien du conjoint, qui est très important et à 90% dans le traitement de la pathologie.
On va marquer une pause et on revient juste après pour la suite. Vous faites bien de suivre Radio de la Paix. Vous écoutez Sujet de discussion. Et aujourd'hui, qui parle de ce syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK. Et pour en parler, nous sommes en studio avec deux voix qui brisent le silence, comme j'aime à le dire. On a l'ONG Solidaire contre le SOPK, représentée ici par la présidente Bamouni Prisca Vanessa. Et puis également, nous avons un médecin naturopathe qui nous aide depuis le début de cette émission à mieux comprendre cette pathologie. Docteur Aoussou Moïse, voilà. Je crois qu'il y a des éléments importants déjà qui ont été donnés, mais on reviendra là-dessus avec des mots-clés que les femmes devront retenir, mais aussi la société, puisqu'elles vivent en communauté et souvent il y a beaucoup de stigmatisation et des difficultés. Alors moi, j'aime beaucoup quand je reçois des invités terminer avec des messages de valeur.
Ouais.
Et depuis que vous êtes lancé dans ce combat, qu'est-ce que vous avez retenu de très important à mettre en avant et à enseigner justement aux autres? C'est quoi, par exemple, comme valeur clé que vous retenez de ce combat-là?
Comme valeur que je retiens de ce combat, je vais dire, c'est la patience et la persévérance. Parce que avec le SOPK en eux, c'est impossible de ne pas être patiente même. Voilà, parce que on t'impose même la patience. On t'impose la patience. Et je pense que c'est l'une des valeurs c'est l'une des valeurs les plus importantes qui se dégagent de toutes les personnes qui sont atteintes du SOPK.
Merci beaucoup à vous, Vanessa. Vous êtes la présidente de l'ONG Tous Solidaires contre le SOPK, voilà. Et vous avez bien voulu être là pour nous présenter vos actions, parler de cette maladie, de cette pathologie ou déséquilibre hormonal. C'est pas une maladie en tant que telle, c'est ça?
Exactement.
Voilà, le docteur nous donne justement la bonne définition. Alors, présidente de l'ONG contre le SOPK, Bamouni Prisca Vanessa.
Exact.
Alors voilà, avec vous docteur, terme de valeur aussi clé à retenir. Et puis peut-être une dernière question. Est-ce que une dame qui souffre de ce déséquilibre hormonal peut présenter plusieurs symptômes
en même temps?
En même temps.
Oui. Alors, une femme peut avoir tous ces symptômes qu'on a cités en même temps, tout comme on en avoir juste un ou deux. Donc ça dépend vraiment de ce qu'elle a. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir consulter un spécialiste. Et c'est lui, en fait, qui doit normalement donner la marche à suivre.
C'est ça.
Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les valeurs au cours de ces périodes de traitement, etc., il faut d'abord travailler sur ses propres complexes. Ça, c'est le premier point, parce que c'est une maladie avec laquelle il faut faire preuve de résilience et travailler aussi sur son mental. Peu importe ce qu'on a, même un cancer, si le mental est fort, on peut tout vaincre. Et ça, c'est déjà la première clé vers la guérison ou bien vers la restauration par rapport à SOPK. Ensuite, changer son mode de vie. Ça, c'est vraiment l'un des points les plus importants, parce qu'en changeant son mode de vie, on peut réussir à réguler tout ce qui est autour. Le médecin, il va venir après. Mais le reste, le plus important, c'est à la personne de le faire. Donc, continuez de travailler dessus pour arriver à de bons résultats.
En tout cas, merci beaucoup à vous, docteur Aoussou Moïse. Merci d'être passé. Merci aussi à Vanessa Bamouni. Merci beaucoup. Merci d'être venu également nous parler du SOPK. Alors, il faudrait savoir que voilà, le chemin vers une meilleure compréhension et prise en charge de SOPK est encore long. Voilà, mais chaque conversation, chaque témoignage, chaque émission, justement, comme celle-là, nous aideront justement à mieux comprendre ce déséquilibre hormonal. Et puis, il faudrait briser les tabous aussi.
Exactement.
Et puis, pourquoi pas aussi soutenir la recherche.
C'est ça.
Aider à faire des recherches, aider les scientifiques à faire avancer les recherches là-dessus.
Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les statistiques qu'on a, c'est vrai qu'on nous dit, ce sont des statistiques... mais aujourd'hui, ça prend de plus en plus d'ampleur.
Oui. Ouais.
Quand tu discutes avec une femme, tu t'en rends compte tout de suite que... Donc, il faut encore vraiment faire beaucoup d'efforts sur les recherches. Surtout qu'on n'a vraiment pas de statistiques au niveau de la Côte d'Ivoire ou même en Afrique. Voilà.
C'est
on n'a vraiment pas encore de statistiques. Vraiment, on a besoin de plus en plus de recherches et vraiment savoir exactement en ce qui concerne le SOPK.
C'est cela. Et puis derrière chaque diagnostic, il y a une femme, il y a une histoire, il y a aussi un combat.
Oui, Oui, surtout.
Merci beaucoup d'être passé.
Merci beaucoup.
C'était sujet de discussion.